Une création.
Blast.
Avant de commencer cet épisode, un mot important. Il est question ici de violences sexistes et sexuelles au travail. Certains récits peuvent donc être difficiles à entendre. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont contacté à la suite de mon appel à témoignage. Merci pour votre confiance et pour le courage que cela demande de se raconter. Bonne écoute.
Il est indispensable que la honte change de camp. Et la France ne doit plus être un de ces pays où les femmes ont peur. Oh, it's true. Ah, it's
true. Ah, it's true. Vous ne comprenez pas à quel point il y a des métiers difficiles. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible ?
Du haut de mes 25 ans et de mes quinzaines d'entreprises derrière moi, j'ai toujours été une proie.
Je suis fatiguée des hommes aussi et de leur violence en fait.
Ces violences-là, elles sont pas forcément uniquement dans les bureaux, on les retrouve dans les usines, dans les milieux précaires. Je m'appelle Effie et j'ai 25 ans. Je viens d'une famille prolétaire. Ma mère a toujours travaillé à l'usine. Mon papa était aussi à l'usine. J'ai commencé mon parcours professionnel. J'avais 16 ans avec un CAP coiffure. Après mon CAP, j'ai pas voulu continuer dans cette branche et il n'y avait pas beaucoup d'occasions pour moi de faire autre chose. Les études, c'est pas ce qui était le plus présent dans ma famille, alors j'ai préféré aller à l'usine. J'ai fait de l'usine pendant 4 ans. Durant ces 4 ans, en janvier 2021, j'ai commencé à suivre une formation de 6 mois pour devenir assembleuse soudeuse industrielle. On devait être 10, 12, dont moi et une autre femme. Ça a commencé par des allusions au sexe, constamment. Donc il y avait notamment deux hommes qui me racontaient ce qu'ils faisaient avec leur compagne, qu'elles le veuillent ou pas d'ailleurs. C'était très stressant, très opprimant et puis surtout j'en avais rien à faire quoi. Ce qu'ils pouvaient me dire, c'était « Ce week-end, j'ai emmené ma copine se faire percer la langue parce que comme ça quand elle me suce, c'est mieux ». Que des trucs comme ça, ou des suggestions, comme « Oh, tu devrais essayer un plan à trois !» T'as moi et ma copine, en tout cas, on est super ouverts. Hein. Il faut dire les termes, et le terme est là. J'étais une proie. Je suis passée de la proie à la personne, entre guillemets, à éliminer, parce qu'au bout d'un moment, les personnes ont compris qu'en fait... j'allais pas finir dans leur lit. C'est là que les blagues ont commencé. La graisse dans les gants, mes plans qui disparaissaient comme par magie. Je suis partie en pause et j'avais mis mes plans, ma pièce à souder et donc ma bouteille de gaz qui était neuve que j'avais déjà réglée auparavant. Et je reviens, je me rééquipe, donc je mets mes gants, je mets ma cagoule, je commence à souder. Et là, je vois qu'en fait, ça pète. C'est pas censé péter quand tu soudes, c'est censé être très fluide. Et là, ça pète, ça sent le gaz. Et je regarde ma bouteille de gaz et elle était complètement déréglée, quoi. Et les deux seuls qui sont restés après ma sortie, c'était les deux qui me prenaient pour proie 2 mois avant, quoi. C'est trop bizarre et c'est incompréhensible, quoi. Incompréhensible qu'on veuille autant de mal ou de mal-être à quelqu'un, enfin... parce que j'ai pas voulu rentrer dans leur jeu, parce que je me suis pas soumise à leur envie. Je pense que c'est ça, en fait. Faut savoir que moi, le matin, je mangeais plus, j'avais plus envie de venir, parce qu'à chaque fois, c'était pareil. Je savais que de toute manière, j'allais m'en prendre plein à la tronche. Je fais ma pièce, je la donne à mon formateur. Là, mon formateur, devant tout le monde, me sort. J'espère que le fond de ta culotte est plus propre que ça. Mais devant tout le monde.
«
Je suis partie, je me souviens que j'ai appelé ma mère en pleurs. Bah parce que c'était la goutte de trop, quoi. Mais personne n'a réagi, personne s'est indigné.
Moi, c'est Anna, j'ai 31 ans. J'ai longuement travaillé dans la restauration. Moi, j'ai commencé à 18 ans. En fait, dès que j'ai été majeure, je travaillais comme barman. La plupart du temps, après, j'ai fait aussi du service en salle. Et le bar, voilà, ça me permettait d'avoir un travail de nuit pour faire des études. Ce que j'aime dans staff, c'est quand même qu'il y a un truc social et même un truc politique qui est important aussi, quoi. C'est des lieux de sociabilité, c'est des lieux où on se retrouve, c'est des lieux où on peut parler politique, c'est des lieux où on peut s'organiser, c'est des lieux où on fait la fête. Ouais, c'est un beau métier. Mais franchement, moi, ça m'a dégoûté comment on est traité. À la fois pour les violences sexuelles, à la fois pour les conditions de travail, à la fois pour cette espèce de mépris total. Enfin, on nous crache à la gueule, franchement, c'est... Enfin, quand j'y repense, en fait, c'est quand même assez dégueulasse, quoi. Tu travailles avec des patrons qui ont plus de 40 piges et qui te touchent, en fait. Parfois, c'est juste voilà, des câlins, des gestes. Puis bah, parfois, ça a été aussi des mains sur les fesses, des mains sur le pubis. J'ai un patron aussi qui m'a pincé les tétons. Quand j'ai vécu ça, c'était toujours derrière le bar, en plein service, donc avec des clients qui étaient au comptoir. Et tu te dis, c'est tout à fait normal, quoi, en fait. Genre, personne s'est levé en disant, mais ça va pas ou quoi, enfin, Donc tout ça, en fait, les gens en sont témoins, quoi. Et donc, c'est pas des agresseurs isolés. C'est un système, en fait. Les remarques des clients, enfin, c'est vrai que le nombre de fois où on me proposait de rentrer avec moi, tu sais, t'es sur ton lieu de travail, t'es là, bah, je suis pas travailleuse du sexe, en fait, les gars, enfin, c'est marqué où sur mon contrat, Ça, je trouvais ça fou, puis surtout, c'était toujours des vieux gars qui avaient 20 ans de plus que toi, quoi, enfin, c'est vraiment, c'était à vomir, quoi. Tout le monde trouve ça strictement normal de parler de ton corps, de le toucher, donc ça devient une normalité. Enfin, moi, je pense que pendant toutes les premières années, il y avait des choses que je trouvais absolument, enfin, normales, quoi. Enfin, on en rigolait peut-être. Je me souviens d'un patron qui revenait complètement bourré à chaque fin de service, et puis moi, je finissais le ménage et lui, souvent, essayait de me prendre dans ses bras pour me faire des bisous, et donc il était tellement bourré que je le poussais sur la banquette. Et il s'endormait, moi je pouvais finir la caisse et je finissais le ménage et puis je le réveillais pour lui dire que c'était bon, il pouvait rentrer, je fermais le bar et il rentrait prendre sa bagnole à 3 grammes et voir sa femme, quoi. Je pense que ce que je raconte, c'est des violences minimes par rapport à ce que d'autres personnes ont pu vivre.
Je m'appelle Tiffany Coisnard, je suis juriste chargée de mission à l'AVFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail. Les victimes qui subissent du harcèlement sexuel, c'est souvent comme ça qu'elles nous contactent, avec des phrases un peu du type « je sais que vous avez plus grave à traiter, mais moi j'en peux plus, voilà ». Oui, il y a toujours plus grave. Et donc c'est justement une des raisons pour lesquelles on lutte contre cette idée qu'il y a une échelle de gravité entre les violences, puisque ce qui se passe après, c'est que les victimes ne se sentent pas légitimes à se dire victimes, à se comprendre victimes et à dénoncer les violences. On leur dit « on serait incapable de faire notre travail correctement si on estimait que ce que vous subissez, c'est moins grave que ce que subit une autre ». Parce que ça voudrait dire qu'on hiérarchise aussi les victimes entre elles. Et donc, on va prioriser des victimes en fonction de ce qu'elles ont subi. Et ça, c'est hors de question, parce que quand on lutte contre le patriarcat, on lutte contre tout ce qu'il crée. Et donc, que ce soit le harcèlement sexuel, ou des viols, ou des agressions sexuelles, pour nous, c'est pareil. Toutes ces violences-là doivent disparaître. Dans le Code du travail, on a un article sur le harcèlement sexuel qui parle de propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui a des conséquences néfastes sur la victime. Donc, on va entendre tout type d'agissement, peu importe que ce soit des confidences de la part de l'auteur sur sa vie intime ou bien des questions intrusives sur la vie intime de la victime, des blagues entre guillemets à connotation sexuelle. Ça peut être l'envoi de gifs ou de mèmes pornographiques ou à connotation sexuelle. Ça peut être des demandes implicites comme explicite, c'est important de retenir que c'est bien connotation et pas caractère. Donc ça veut dire que tous les comportements qui sont insidieux peuvent quand même être couverts par ce texte. Il n'y a pas d'échelle de gravité qui est pensée entre les différents comportements. Ces comportements, ils sont issus de la même racine. Ils proviennent du même problème, qui est le patriarcat et la hiérarchisation des individus en fonction de leur catégorie de sexe. Je parle de sexe au sens social, hein, je précise. Et c'est ça, en fait, qui crée un rapport de pouvoir inégal sur lequel la classe des hommes va se fonder pour pouvoir commettre les violences.
Moi, ce qui m'avait le plus choqué, c'était dans un des bars dans lequel j'ai bossé 3 ans, qui était un bar assez connu à Nantes, où, très festif, un bar cool, quoi, tu vois, qui se dit de gauche et tout ça, quoi. On faisait des nuits de 12 heures. Donc, en fait, on commençait à 15 heures, on finissait à 3 heures du mat. Et nos seules pauses, c'était fumer des clopes en même temps qu'on portait un plateau à bout de bras et qu'on ramassait des verres sur la terrasse. Donc, en fait, c'était pas des pauses. Je faisais 48 kilos, j'avais des tendinites. Enfin, j'étais épuisée, quoi. Moi, à ce moment-là, j'avais repris mes études en droit, alors que ça faisait peut-être 5-6 ans que je bossais en bar. J'avais trouvé ça fascinant, le premier cours de droit du travail, où en tout cas, je découvrais beaucoup de choses qui n'étaient pas normales, mais que j'avais intégrées comme faisant partie de ce secteur professionnel. Et donc, j'avais commencé à parler un petit peu de ça. J'avais demandé si je pouvais faire des nuits un peu moins grosses ou avoir des pauses, ou des vraies pauses. Et au sein, moi, de mon établissement, donc il y avait un des collègues qui était devenu patron, qui avait racheté des parts. Ce collègue et ce nouveau patron, il m'avait trouvé un surnom à connotation sexuelle, qui était horrible, hyper dégradant. Il m'appelait comme ça tout le temps, devant les clients. Il l'écrivait sur les notes. J'avais beau leur dire, mais en fait, c'est complètement con. Et puis, c'est pas drôle, en fait. Ça me fait pas rire. C'était hyper humiliant. Et en fait, ils ont continué pendant des mois, jusqu'à ce que je décide de démissionner du jour au lendemain. Donc en plus, j'ai même pas, au bout de 3 ans, j'ai même pas rien négocié. Je suis partie, j'ai changé de ville aussi. Après le confinement, j'ai pas eu le choix, donc j'ai dû rebosser en restauration. J'avais ce sentiment d'humiliation, quoi, alors qu'il n'était pas lié au travail en lui-même. Enfin, c'est un beau métier, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas ce travail-là qui est dégradant en lui-même. C'est cette succession d'humiliation, en fait, qu'on te fait subir. Et en fait, que tu réalises pas trop, parce que, en tout cas, moi, dans mon histoire personnelle, c'était pas, franchement, pas les plus graves agressions que j'avais vécues, quoi. Par contre, le harcèlement que j'ai vécu, je l'ai trouvé hyper violent. En fait, il m'a fait beaucoup plus mal que les coups que j'ai pu prendre ou même que certaines agressions sexuelles physiques, quoi. Ce qui m'interroge, c'est vraiment cette normalisation. Cette acceptation, en fait, on intègre que ces traitements-là, ils sont normaux, quoi.
Je peux pas dire qu'il y a des environnements de travail qui sont plus propices à la commission de violences, parce que on voit que les violences, elles sont partout. C'est trans-classe, c'est trans-secteur, si je puis dire. Le harceleur ou l'agresseur, il n'a pas de profil type, contrairement aux idées reçues, là encore. C'est vrai qu'on a tendance à croire que c'est le supérieur hiérarchique parce que y a un rapport de pouvoir qui est contractualisé, donc qui est particulièrement clair en la défaveur de la victime. Et effectivement, on a des dossiers dans lesquels c'est le cas. Mais en fait, on est autour de un peu plus de 70% où le harceleur est en fait un collègue ou un usager lorsqu'il s'agit d'un service ou un patient ou un client, etc. Et en fait, c'est parce qu'il y a d'autres rapports de pouvoir qui, eux, ne sont pas contractuels, mais qui existent quand même. Vous regardez deux collègues donc, qui ont le même poste, mais il y en a une qui est là depuis 2 ans et l'autre qui est là depuis 10 ans, il y a un rapport de pouvoir du fait de l'ancienneté. Quand il y a une différence d'âge particulière, l'auteur qui a 50 ans et la victime qui en a 22, évidemment qu'il y a aussi un rapport de pouvoir. Donc c'est tout ça en fait qui va créer le rapport de pouvoir, indépendamment de la contractualisation de ce rapport de pouvoir. Et ça, il faut bien le garder en tête parce que c'est vrai qu'il y a encore des gens qui partent du principe que si ce sont des collègues, c'est horizontal et donc il n'y a pas de rapport de pouvoir. Et donc, ils ont du mal à analyser les faits, en fait, à avoir ce prisme sur où était le pouvoir et donc où était la contrainte pour la victime.
J'ai travaillé dans une entreprise aux alentours de Angers qui devait accueillir entre 10 et 15 salariés. J'étais la seule femme, donc une petite entreprise, et il n'y avait pas de vestiaire pour les femmes. Donc je devais me changer soit dans un bureau, soit dans les toilettes. Un jour, j'ai dû faire tomber un outil par terre et donc je me suis penchée, les jambes tendues. Et mon chef, qui passait par là, m'a mis un petit coup de genou derrière mon genou, ce qui fait qu'automatiquement, mon genou s'est plié. Et c'est là qu'il m'a dit, t'es en atelier, donc tu te penches comme un homme et non pas comme une femme. Je me souviens que j'avais réagi en rigolant, mais en rigolant jaune, quoi. Et il m'avait dit, non, parce que moi, dans mon atelier, j'ai confiance en mes hommes. Par contre, dans d'autres ateliers, peut-être fais attention à toi. Ça m'avait interrogé de... Ok, il connaît ses hommes, mais dans d'autres entreprises, genre là, apparemment, je suis à peu près safe, mais fais attention quand même. Et dans d'autres entreprises, te penche pas comme ça, sinon... Sinon, c'est quoi, c'est, je sais pas, un appel, hein, je sais pas, je veux même pas y penser. Hein, Fais attention à comment tu te comportes, parce que sinon, ça veut dire que... Il y a anguille sous roche. Alors que pas du tout. Je suis au travail. Je travaille.
Toutes mes années de bar, j'ai trouvé que c'était des années très solitaires. Quand tu travailles seulement de nuit, tu es complètement décalé. Tu coupes avec une partie des gens qui ne travaillent pas dans ce secteur-là. Ma vie sociale se résumait à mon travail, en fait. Cet isolement, il permet aussi de comprendre de ce silence, parce que finalement, à qui tu vas en parler, quoi. Tout ça, ça participe aussi à te retrouver dans un espèce de huis clos où la violence sur le corps, de par les conditions de travail et de par les comportements sexuels ou sexistes qu'on te fait subir, enfin, deviennent une espèce de normalité. Du coup, t'en parles pas parce que bah, même toi-même t'intègres que c'est normal. Je faisais attention quand même à la manière, enfin, dont je m'habillais. Enfin voilà, je pense que c'était des réflexions qui nous traversaient toutes, quoi. C'est-à-dire comment se protéger aussi hein, des insultes ou des remarques sexistes. Enfin, en fait, on considère un peu dans ce secteur-là que ton corps il est à disposition. De toute façon, aussi, la manière dont on t'exploite au travail aussi, il est lié. Quoi. C'est-à-dire que quand on impose au corps d'un travailleur ou d'une travailleuse de travailler 12 heures par nuit, de ne pas prendre de pause, tes pauses, ça se résume à fumer 3 tafs d'une clope avec un plateau dans l'autre main, tout en ramassant des verres. En fait, c'est ça qu'on t'offre. Donc, en fait, c'est dans une continuité d'exploitation du corps, en fait, parce que les conditions de travail abîment déjà ton corps, l'impact directement. Moi, à 19 ans, j'avais déjà deux tendinites à chaque épaule. On commence à avoir des varices à même pas 25 ans. Du coup, c'est une continuité, finalement, les violences sexuelles qu'on peut te faire subir, quoi. C'est fatigant. Enfin, en fait, après, moi, je suis fatiguée, je pense, je suis fatiguée des hommes aussi et de leur violence, en fait.
J'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans, j'en ai 25 aujourd'hui, et il n'y a pas un taf où j'ai pas vécu des choses infâmes, où on m'a pas ramené à mon physique. Ouais, putain, j'ai 25 ans, je me suis pris le sexisme au coin de la gueule de toutes les manières, par des personnes de tout âge, de toute classe sociale. Ce que j'ai appris de mes 9 ans de taf, c'est que la hiérarchie masculine sera toujours plus forte que toi. Qu'importe l'âge qu'on a, qu'importe le métier qu'on a, qu'importe la classe, le statut social d'où on vient, dans les yeux des hommes, une femme reste une proie. Et il est grand temps que ça change.